de retour sur le plateau du média. Elle est une voix singulière, constante, parfois dérangeante, mais toujours fidèle à sa ligne. Défendre, coûte que coûte, les travailleurs et les travailleuses, les exploités, celles et ceux qui n'ont pas les leviers économiques mais en subissent les conséquences. Porte-parole de Lutte Ouvrière, professeur d'économie-gestion, figure historique de la gauche ouvrière, Nathalie Arthaud vient d'officialiser sa candidature à l'élection présidentielle. À l'heure où les plans de licenciement s'enchaînent, où la précarité explose, où les caisses de grève remplissent plus que les urnes, l'annonce de la candidature de Nathalie Arthaud arrive à point nommé dans la séquence sociale intense que nous vivons actuellement. Entre crise du logement, bras de fer sur les salaires, réformes contestées, montée de l'extrême droite et fragmentation de la gauche, elle porte une candidature qui se veut d'abord et avant tout une tribune pour les classes ouvrières et populaires. On en parle sans filtre avec elle tout de suite. C'est parti pour l'entretien. Nathalie Arthaud, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je voulais parler avec vous tout de suite d'abord de l'actualité de la minute, là, à l'instant, on vient de l'apprendre, qu'une partie donc du budget, enfin, en tout cas du PLFSS, a été votée. Qu'est-ce que vous en pensez, hein, les députés ? La partie recette a été votée. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça déjà d'abord ?
Eh bien, en effet, Olivier Faure pourrait être Premier ministre de Le Cornu. Voilà, c'est tout à fait possible. Non, mais clairement, le Parti socialiste est en mode sauvetage, mais parce qu'il veut apparaître vraiment comme responsable vis-à-vis du grand patronat, de la bourgeoisie qui veulent en finir avec cette crise politique. Voilà. Donc là, il montre vraiment qu'il reste un parti, un pilier finalement de l'ordre bourgeois. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Je tiens juste à redire, parce que dans votre journal, vous avez évoqué des alliances inhabituelles, surprenantes, oui, etc., y compris dans la bouche de Coquerel, hein, qui expliquait cela. Mais je tiens à dire que d'abord, Macron était un ministre de Hollande.
Oui.
N'est-ce pas ? Et le Parti socialiste a gouverné en participant lui aussi déjà au recul de l'âge à la retraite, en allongeant la durée de cotisation nécessaire pour toucher sa retraite. Donc il a porté beaucoup de coups contre les travailleurs. Et s'il y a aussi une alliance finalement, en tout cas qui pourrait surprendre ceux qui suivent la France insoumise, c'est peut-être l'alliance précisément que la France insoumise a fait avec le Parti socialiste aux dernières législatives. Voilà.
Justement, on parlait d'alliance. Aux dernières législatives, la France insoumise a également fait alliance avec les écologistes qui, là, pour le coup, se sont abstenus. Vous en pensez quoi, justement ?
Écoutez, voilà. Non, manifestement, il y a quand même un certain nombre de députés du NFP qui n'ont pas du tout envie d'une dissolution parce qu'ils ont peur de perdre leur siège. Voilà, tout simplement. Donc, moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, de ce budget, en effet, il ne ressortira que des coups. Hein, ça, c'est une réalité. Moi, ce qui me frappe le plus, et une mesure là qui a retenu mon attention et que je trouve vraiment très très révoltante, c'est la suppression du complément qui était versé pour les allocations familiales quand l'enfant arrivait à 14 ans. Entre ses 14 et ses 18 ans, les familles recevaient 73 euros par mois de plus.
Oui.
Là, elles vont le perdre. C'est pour certaines familles une perte de ça peut aller jusqu'à 1000 euros. Enfin, c'est énorme, énorme pour des familles populaires. Donc voilà, ce budget est criblé comme ça d'attaques qui vont être brutales, qui vont être très, très dures. Tout ça, c'est masqué parce qu'il y aura une pause dans l'avancée de l'âge de départ à la retraite. Voilà. Alors même que il faudrait l'abroger en totalité, et de notre point de vue, la perspective, c'est pas de travailler plus longtemps, c'est de travailler moins,
oui,
de travailler tous, c'est-à-dire de répartir le travail entre tous. Voilà. Ça veut dire prendre sur les profits, bien sûr. Ça veut dire s'affronter avec la bourgeoisie et le patronat, et c'est ça le problème.
Donc justement, l'accord qu'a passé le Parti socialiste avec Sébastien Lecornu, cette pause sur la suspension des retraites, pour vous, c'était de la tambouille politique, car finalement, comme vous l'expliquiez, Macron est un ancien ministre d'Hollande, et que les socialistes eux-mêmes, au moment où ils étaient au pouvoir, n'ont pas été forcément dans le sens des travailleurs et de ceux des plus précaires.
Oui, ils ont même mené une guerre sociale contre les travailleurs. Voilà, on avait quand même Hollande qui s'était présenté avec l'ennemi, mon ennemi, c'est la finance. Hein, et puis, au bout du compte, c'est lui qui a fait, y compris, le crédit d'impôt recherche. Vous savez, le fameux CICE, hein, c'était... Alors, on est à 7 milliards hein, de données comme ça aux grandes entreprises sans aucune, sans aucun contrôle, sans aucun contrôle. Cet argent, il est allé, augmenter les coffres-forts de ces grands actionnaires et de cette bourgeoisie. Toutes les exonérations, voilà. Donc, c'est pour moi, vous savez, il n'y a pas de grande différence hein, entre la politique menée par Macron, celle de Hollande, celle de Sarkozy avant. Il y a une continuité. Tous ces gouvernements tous ces dirigeants politiques, une fois qu'ils s'installent à l'Élysée, de toute façon, hein, ils se mettent à genoux devant Bernard Arnault, devant Mulliez, devant Peugeot, devant Dassault, etc. Ils se mettent à genoux.
Justement, j'imagine que c'est pour ça que vous représentez pour la quatrième fois à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui vous pousse, en dehors de peut-être de cette actualité-là, mais qu'est-ce qui vous pousse à vous représenter une quatrième fois?
Alors d'abord, je tiens à dire que je lance pas du tout de campagne. Oui. Simplement, Lutte ouvrière a tenu son congrès ce week-end dernier. On s'organise, on a voté notamment que je serai à nouveau candidate pour Lutte ouvrière, et nous avons rendu compte des conclusions de notre congrès à la presse, comme on le fait habituellement. D'accord. Voilà. Donc, pour nous, c'est pas du tout, comment dire, c'est pas un scoop, en réalité. Ouais. C'est pas un scoop. On n'en fait pas un lancement de campagne, parce que je pense que, en effet, les travailleuses et les travailleurs, ils ont d'autres chats à fouetter aujourd'hui, avec tout ce qui leur tombe sur la tête. Et puis, en matière aussi, d'ailleurs, d'élection, il y a quand même d'abord les municipales. Oui. Il y a quand même les élections municipales et y compris nous, dans ces élections-là, nous appelons les travailleurs à se représenter eux-mêmes, à constituer des listes d'ouvriers, de caissières, de conducteurs de bus, d'employés, d'enseignants, d'infirmières, de prendre la parole eux-mêmes, voilà, d'exprimer leur colère, leurs intérêts et leurs préoccupations sans en passer par des politiciens professionnels, par des notables établis ou des politiciens en herbe, voilà. Que nous disons aux travailleurs qu'il faut que nous prenions notre sort en main et arrêter d'attendre d'autres, et en particulier les dirigeants politiques, face à notre place. Voilà, parce que, bon, là, le spectacle politique qui nous serve est quand même affligeant. Hein, il y a effectivement toute cette mascarade, là, qui dure depuis des mois maintenant à l'Assemblée nationale. Mais il y a aussi le spectacle tragicomique donné par Sarkozy, qui ce multi-récidiviste, multi-condamné qui cherche à nous faire pleurer sur ses 20 jours passés en prison. Tous ceux qui ont... les procès de détournement de fonds publics. On voit bien que quand on appartient au monde du travail, on n'est pas représenté par ces gens-là. Voilà. Bah, il faut qu'on se représente nous-mêmes. Donc nous, effectivement, là, si on a un message à faire passer en termes d'échéance électorale, c'est que c'est en ce moment que se constituent les listes pour les municipales. Et il faut que les travailleuses et les travailleurs, tous ceux qui ne se résignent pas, eh bien, s'organisent pour dire bah, on va en profiter pour justement dénoncer cette société d'exploitation, dénoncer nos bas salaires, dénoncer l'évolution réactionnaire, inégalitaire, raciste, guerrière de la société. Voilà, donc c'est aussi un appel que nous faisons, nous, aujourd'hui. On va présenter, notre objectif, c'est de présenter 200 des listes dans plus de 250 villes. D'abord, bien sûr, les plus grandes du pays. Mais donc, on espère qu'il y aura un peu plus de 10 000 candidats sur ces listes, justement. Des femmes et des hommes conscients que leur classe sociale a des intérêts à se défendre, qu'il y a un camp qui existe bah, par-delà le métier que l'on fait, le secteur dans lequel on travaille, par-delà aussi les origines, les couleurs de peau, alors même que le patronat et tous ces politiciens là de droite, d'extrême droite cherchent à diviser les travailleurs, eh bien d'affirmer que non, on appartient au même camp, on partage les mêmes galères, on a le même combat à mener, et ben on se réunit justement, on s'organise, on prend la parole. parole et on impose que nos intérêts soient au moins défendus dans le cadre de cette élection.
Donc oui, donc les élections municipales, hein, vous venez de le dire, peuvent vous permettre à Lutte Ouvrière, entre autres, de peser donc un peu plus que lors de l'élection présidentielle. Je rappelle les récents chiffres de l'élection présidentielle. Vous avez fait un peu moins de 1% en 2022. Comment transformer justement votre positionnement, votre ancrage politique, j'en parle en introduction, vous venez encore de le faire là, de le transformer en forte audience électorale en fait. Comment, j'imagine que c'est des questions que vous vous posez au sein de Lutte Ouvrière, mais comment on fait pour justement transformer tout ce que vous nous dites là en audience électorale?
Il faut d'abord et avant tout montrer qu'il y a un courant dans la population et dans les classes populaires qui ne se résignent pas à cette société qui voue un culte à l'argent, où on est censé se prosterner devant les milliardaires, où finalement on est censé se recroqueviller, on est censé se replier sur soi, on est censé avoir peur, soi-disant, de l'immigration, etc. Qu'il y a un courant qui rejette tout ça, et qui dit sa conscience que la société, elle est divisée en deux classes sociales et que le véritable problème, c'est l'exploitation. C'est cette société capitaliste qui ne peut que créer de plus en plus de misère, de dévastation, mais aussi dresser les peuples les uns contre les autres et nous amener à la guerre. Donc, c'est avant tout, vous savez, quand vous dites comment peser, pour moi, c'est d'abord peser au niveau des idées, au niveau des perspectives. Il faut montrer qu'il y a un courant, et ben, il pèse ce qui pèsera. Je sais pas combien on pèsera, mais en tout cas, il existe, il est là, il est debout, et justement, il ose dire ce courant, et c'est le seul, hein, que l'humanité, elle n'est pas condamnée pour l'éternité à cette société capitaliste. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important et de décisif. Parce que je suis convaincue que tôt ou tard, les travailleurs, ils réagiront sur quel, à partir de quel problème, à partir de quel événement, je ne sais pas. Mais il faut qu'ils aient ça en tête. Il faut qu'ils aient en tête qu'il est possible d'organiser la société sans, justement, l'exploitation, sans cette propriété privée, là, des grandes entreprises, qu'on peut l'organiser collectivement et que les travailleurs ont un rôle fondamental à jouer. Parce que nous, ce sur quoi nous insistons et toute notre politique, c'est de dire que les travailleurs, ils font fonctionner toute la société, mais ils ont aussi des idées sur comment elle peut être organisée. Ils ont des idées sur comment elle devrait être dirigée pour qu'enfin on réponde aux besoins de tous. Vous savez, quand on travaille dans la chimie, dans la pharmacie, dans l'automobile, mais partout, on mesure les progrès. Il y a des progrès, on mesure les richesses qui sont créées. Et donc on mesure qu'on aurait largement les moyens de résoudre les problèmes que tous ces foutus là, de gouvernements qui se succèdent sont incapables de résoudre. Donc voilà, nous disons surtout bien savoir qu'aucune élection ne va changer la vie des travailleurs. Tout ce qu'on peut faire, et moi je ne prétends pas plus qu'une autre, enfin je ne dirai jamais, et c'est ce qui va me différencier de tous les autres, c'est pas voter pour moi, vous allez voir ce que vous allez voir, non, voter pour moi pour exprimer justement une orientation politique, pour vous rassembler derrière une politique, encore une fois, une politique révolutionnaire, disons le mot, une politique révolutionnaire. Parce qu'en réalité, sans se débarrasser de sa société capitaliste, je pense qu'on ne réglera aucun des problèmes fondamentaux. Voilà.
Et comment justement on peut faire entendre ce discours, abolir le capitalisme, dans un pays où l'extrême droite augmente partout?
Mais c'est pas, vous savez, ce n'est pas que le problème de l'extrême droite. Hein. C'est que là, moi, je vois aussi sur tous les plateaux une propagande pro-patronale virulente. Il y a eu cette pause là sur l'âge de départ à la retraite. Mais vous avez 99% des discours qui sont défendus aujourd'hui, qui nous mettent dans le crâne que de toute façon, demain, il n'y aura plus de retraite. Il va falloir travailler jusqu'à 67 ans, etc. Ils avancent. Voilà. Et l'extrême droite, elle accompagne ce mouvement-là. Hein, d'abord en cachant que les coûts viennent du patronat, et en essayant de faire, en mettant en avant ce fameux grand bouc émissaire. Hein. Alors voilà, c'est les immigrés, c'est donc effectivement, aujourd'hui, le RN, il prospère sur le recul de la société, et puis il l'accélère. Il l'accélère en divisant, en faisant diversion et en effet en dressant des pauvres contre d'autres plus pauvres, tout simplement.
Et justement, en fait, parce que beaucoup de travailleurs, notamment précaires, soit s'abstiennent de voter, soit, pour certains en tout cas, votent RN. Et pourtant, récemment encore, les grands patrons, pour beaucoup d'entre eux, ont plutôt intérêt à ce que ce soit Bardella demain au pouvoir. Et comment, en fait, on parvient, j'imagine, dans les rencontres que vous pouvez faire, à faire passer ça comme idée aux gens, qu'en fait, finalement, on oppose des pauvres à d'autres pauvres?
Alors d'abord, il faut discuter aussi de leur désillusion, parce que souvent, une partie de ceux-là avait cru dans la gauche, avait cru dans le Parti communiste, avait cru dans le Parti socialiste. Et il y a aussi, à la base de ce, comment dire, du fait de chercher du côté de l'extrême droite, il y a un grand sentiment de trahison quand même. Il y a un grand sentiment de trahison. Donc déjà, il faut l'expliquer. Et puis, il faut effectivement expliquer et dire que est-ce que parce que celui qui fait la cuisine dans le restaurant, celui qui fait le ménage, quand il aura encore moins de droits, quand on lui aura pourri la vie, est-ce que toi, en tant que ouvrier chez Toyota ou ouvrier chez Valeo, est-ce que tu vivras mieux? Est-ce que tu auras un meilleur salaire? C'est pas vrai. Et même, je dirais au contraire. Parce qu'à partir du moment où le RN aura vraiment réussi à diviser les travailleurs et à faire qu'ils se regardent en chien de faïence, eh bien, ça sera encore plus difficile de réagir, de se défendre collectivement. En réalité, on sera pieds et poings liés face aux attaques qui nous tomberont dessus. Donc, on discute de tout ça. Parce que, voilà, il y a aussi, vous savez, il y a beaucoup de peur derrière tout ça. Il y a beaucoup de peur. Il y a le constat que il n'y a pas assez de lits dans les hôpitaux, qu'il y a des problèmes de logement, que voilà, on manque de places en crèche, etc. On manque d'emplois, donc on est peut-être trop nombreux. Il y a aussi tout ça, et ça, il faut y répondre. Bien sûr que non, nous ne sommes pas trop nombreux. La réalité, c'est que aujourd'hui, on a une classe capitaliste qui est en train de nous dépouiller, qui est en train de nous tondre la laine sur le dos, qui est en train de nous exploiter comme jamais. Mais qu'on pourrait, y compris dans un hôpital, on pourrait recruter 1000 personnes. Vous prenez les grands hôpitaux, mais il y aurait de quoi recruter. Dans l'éducation, moi je suis enseignante, mais je peux vous dire qu'il y aurait de quoi recruter. Il y a du travail, c'est pas le problème qu'il manque du travail. Le problème, c'est que ceux qui justement en profitent veulent aggraver l'exploitation et lâcher le moins de salaire possible. C'est ça le problème. Donc c'est cette lutte-là qu'il faut qu'on mène. Donc oui, c'est un combat. C'est et je crois que aussi le RN, justement, il surfe sur une certaine résignation. C'est un vote de démoralisation au fond. Et ouais. Je suis convaincue que si le monde du travail se lève à nouveau, s'il arrive à relever la tête, à organiser des luttes et justement à faire la démonstration qu'il est capable de faire reculer le patronat et qu'il est capable d'améliorer la vie quotidienne, eh bien oui, on regagnera ces femmes et ces hommes qui finalement sont perdus politiquement.
Et justement, est-ce que les mobilisations de septembre dernier vous donnent de l'espoir justement dans ce réveil des travailleurs? Comment vous avez perçu cet instant de lutte qui a eu lieu en septembre dernier?
Eh bien, comme à la fois... cette idée qui était quand même riche de se dire eh bien oui, on peut se battre, y compris sans attendre le coup de sifflet des syndicats, on peut s'organiser soi-même, par en bas, dans les entreprises, faire des comités de lutte, etc., se retrouver sur, pourquoi pas, sur un rond-point. On peut faire ça. Donc il y avait quand même cette idée dans l'air qui, à mon avis, est très très positive. Et en même temps, il n'y a pas eu la combativité nécessaire pour véritablement instaurer un début de lutte collective. Voilà. Donc Moi, je pense que c'est ce qui nous attend pour demain. Mais en tout cas, c'est cette voie-là, en effet, qu'il faut emprunter. Il n'y a pas le choix. Le rapport de force.
Vous prenez l'interdiction des licenciements, de contrôle des comptes des entreprises. Je le disais dans le flash un peu avant cet entretien, le dernier recensement de la CGT en mai faisait état de 381 plans sociaux, jusqu'à 245 000 emplois supprimés et menacés. Comment on impose cette interdiction dans une économie mondialisée ?
Ah mais c'est sûr que de toute façon, c'est un justement, c'est un combat, c'est un bras de fer et c'est un affrontement qui en effet, demandera une puissance de la part des travailleurs extrêmement importante, extrêmement élevée. Il faut se faire craindre. Il faut que ce grand patronat, le grand, hein, parce que c'est lui qui tire les ficelles et qui, en réalité, donne le là à tous ceux qui suivent, les sous-traitants, etc. Hein, parce qu'il serre la vis à tous les niveaux. Il faut que ce grand patronat, il ait la trouille de perdre plus dans cette lutte qu'autre chose. Voilà. Et que, y compris, il ait la trouille, en effet, de perdre le contrôle. De perdre le contrôle d'une mobilisation dont il ne voit pas la fin. Hein, où les syndicats, les grands chefs syndicaux n'ont pas prise, où les grands chefs, les dirigeants de gauche, qui bien des fois ont aussi contribué à arrêter des mobilisations. Je pense par exemple à la grande grève de mai-juin 1936. Hein, les dirigeants politiques de gauche du PC, du PS, en l'occurrence, c'était Guy Mollet, mais ils ont arrêté la mobilisation, justement. Eh bien, qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas l'arrêter. Et donc, effectivement, c'est un bras de fer. Mais moi, je suis sûre que s'il y avait une mobilisation puissante qui touche au cœur ces multinationales, je suis convaincue que, y compris dans les autres pays, il y aurait des répliques, il y aurait des échos. Parce que oui, le monde, il est mondialisé. Mais les luttes aussi, elles sont mondialisées. Moi, j'étais quand même, dans l'actualité récente, impressionnée par le fait que les jeunes qui se sont insurgés au Népal ont quand même donné des idées à la jeunesse marocaine. Oui. Et qui a donné des idées à la jeunesse malgache.
Exactement.
Hein, quand même. Alors, vous voyez, Népal, Maroc, Madagascar. On peut se dire qu'il y a quand même assez peu de liens et de rapports directs, en tout cas. Eh bien, n'empêche que les jeunes, ils se reconnaissent dans certaines aspirations, dans certaines luttes. Eh bien, pour les travailleuses et les travailleurs, c'est exactement pareil. Et je dirais même, c'est plus fort encore. Parce qu'on travaille souvent, justement, en lien avec des travailleurs des autres pays. Moi, j'ai des camarades dans l'usine, dans l'automobile, vous savez, ils se déplacent. Alors, certains sont allés au Maroc installer des machines, d'autres sont allés en Slovaquie. Enfin, voilà, c'est les travailleurs, ils ont des liens aussi entre eux. Donc, vous savez, moi, je sais que quand il y avait eu des grandes grèves à Bursa, en Turquie, chez Renault, ça avait beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté dans les usines Renault en France. Vous voyez ? Oui. Eh bien, c'est cette conscience-là que les travailleurs, vous savez, aujourd'hui, c'est vrai qu'on... pour l'instant, on encaisse les coups. Et on se sent finalement petit, on se sent impuissant, etc. Mais il faut réaliser qu'on appartient à une classe qui est présente dans tous les pays, qui est présente à l'échelle internationale, et que le discours qu'on nous sert dans telle ou telle usine, dans telle ou telle entreprise ici, c'est le même que l'on sert aux ouvrières du Bangladesh. Figurez-vous que les ouvrières du Bangladesh, quand elles veulent faire passer leur salaire de 120 euros par mois à 140 euros par mois ou 160, on leur dit « mais la compétitivité !»
Ouais,
c'est exactement les mêmes discours. Donc je peux vous dire que entre travailleuses et travailleurs, on peut se comprendre. On parle pas forcément les mêmes langues, hein, mais on peut se comprendre parce que les patrons, ce sont les mêmes et leur façon de faire leur fric, c'est exactement la même et les mêmes méthodes.
Pour revenir à la France et justement pour avoir un rapport de force qui permettrait aux travailleurs ou aux gens les plus en difficulté ou précaires de s'en sortir, on va dire, il faudrait que la gauche, la vraie gauche ou la gauche en tout cas, puisse être forte. Et on l'a vu avec le vote à l'Assemblée aujourd'hui, la gauche est fracturée, concurrencée. L'électorat, il est un peu déboussolé, à vrai dire. Et je sais que, j'aimerais avoir votre avis, mais sur cette candidature commune à gauche, on en parle tout le temps, à chaque fois, mais j'ai le sentiment, moi, que l'électorat basique, il a envie d'une candidature unique pour que la gauche gagne. On l'a vu, NFP, avec tout ce que c'était, finalement, ça a permis quand même le fait que tous ces partis s'accordent, même s'ils se sont accordés sur une élection, et on a bien vu après que c'était pas vraiment, vraiment le cas. Ça a permis quand même de faire gagner, entre guillemets, la gauche. Et là, on peut se demander, justement, est-ce que une candidature unique serait nécessaire pour que la gauche l'emporte ?
Non, mais où est-ce que la gauche a gagné ? Mais où ? Où ? Quand ? Dites-moi. Enfin, je sais pas, j'ai raté un épisode, là ? Non, mais arrêtez. Et puis, pour faire ce fameux NFP, vous vous rendez compte quand même qu'ils ont dû accepter... C'était quoi leur programme ? Le SMIC à 1600 balles. Mais c'est une honte. C'est une honte. C'est ça qu'ils proposent aux travailleuses et aux travailleurs. Vous avez très justement expliqué qu'il y avait des licenciements, qu'il y avait des problèmes de salaire, etc. Moi, je pense qu'en effet, l'attaque la plus grave contre le monde du travail, c'est celle dont on parle le moins. Et c'est celle-là. C'est les licenciements et les bas salaires. Et les bas salaires. Le SMIC aujourd'hui, comment vous faites pour vivre ? Moi, je voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte, je peux vous dire, parce que ça me révolte parce que on considère ça comme normal, c'est même plus un sujet. Il nous balade, là, je sais bien, voilà, Brigitte Macron, elle a dit un truc, petite conne, machin, machin, alors tout le monde en parle, etc. Mais moi, je veux qu'on parle des salaires. Qui m'explique comment on fait pour vivre avec un SMIC ? Les gens, aujourd'hui, il y a des millions de gens, ouais, ils travaillent, ils ont travaillé toute leur vie, ils vivent avec la peur au ventre. La peur de ne pas boucler les fins de mois, la peur de que leur voiture elle tombe en panne, ou la peur du contrôle technique, la peur de recevoir, quand ils ouvrent la facture d'électricité. Donc voilà, alors bon, ça c'était où la gauche, etc. Mais c'est tout votre raisonnement que je... auquel je ne souscris pas. Je ne suis pas d'accord. Vous dites, il faudrait, pour qu'il y ait un rapport de force important qui se construise, une victoire de la gauche électorale. Je vous ai donné l'exemple du Népal. Il y a eu une élection ?
Non.
Quelque part avant ? Non, ça n'a rien à voir. Si vous voulez, les levées en masse, les révoltes, les explosions sociales, elles ne sont pas indexées sur les scores électoraux des uns ou des autres. Rien à voir, rien à voir. Par contre, une fois que cette révolte est en marche, là, les perspectives que les gens ont dans la tête et ce pour quoi ils se battent, ça devient important. Et moi, j'ai envie quand même que si les travailleurs vraiment étaient en situation de se battre, ils aient autre chose en tête que d'avoir un SMIC à 1600 euros. Parce que c'est indigne, en réalité. Voilà. Et j'accuse, en effet, le patronat de maintenir dans le besoin, de façon consciente. Et puis, pour leur fric, toujours l'écrasante majorité. Tout ça, pourquoi ? Pour qu'ils aient quelques milliards de plus. Donc voilà. Donc non, moi, je pense que l'enjeu n'est absolument pas de faire taire les révolutionnaires comme nous, parce que quand on parle de candidature unique, ça veut dire en gros, vous êtes bien gentils, c'est vrai que ce que vous dites, c'est pas faux, mais s'il vous plaît, taisez-vous, alignez-vous derrière les moins 10 ans, tous ceux qui justement, finalement, acceptent l'ordre social, n'ont jamais un mot pour dénoncer l'exploitation, les classes sociales. Et nous disons, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Oui.
Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais même dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement organisé depuis le début, vous savez, il y a deux familles, il y a deux courants dans le mouvement ouvrier. Il y a ceux qui pensent que les solutions, elles doivent être trouvées dans le cadre du capitalisme, et il y a ceux qui pensent que... il n'y en aura pas de solution pour les travailleurs dans le cadre du capitalisme et qu'il faut viser son renversement. Et cette question-là, elle est toujours d'une actualité brûlante, brûlante. Vous voyez ? Même si, vous comprenez, dernier point, longue.
Mais non, au contraire, c'est intéressant.
Ouais. Même si vous aviez, l'arrivée d'un gouvernement de gauche, etc. Tous ces bruits de bottes là, qu'on entend à l'échelle mondiale, cette guerre économique, elle s'arrête ? Elle s'arrête ?
Mais peut-être que s'ils sont au pouvoir, ils pourront commencer à mettre des choses en place pour que tout ça s'arrête. C'est ça que j'essaye de dire.
La guerre économique ne peut s'arrêter que si on supprime la concurrence capitaliste, que si on supprime la propriété privée capitaliste. Sans cela, cette guerre, nous l'aurons toujours. Et ces guerres horribles, atroces, alors là, c'était l'Ukraine, mais vous savez, le Moyen-Orient, c'est aussi ça, parce que finalement, Israël, c'est l'extension, c'est l'auxiliaire de l'impérialisme américain. Voilà, donc dans la région du Moyen-Orient. Donc non, il faut... et c'est là que moi, je ne suis pas d'accord avec LFI.
LFI, oui.
Je ne suis pas d'accord avec LFI. C'est-à-dire que LFI bon, voilà, considère que la crise du capitalisme, bah, on la réglera en faisant une meilleure politique, en relançant un petit peu la machine. Et puis les patrons, ils seront contents parce que comme on relancera, ils auront du grain à moudre, etc., etc. Mais non, les contradictions sont bien plus profondes. Le capitalisme, il est au bout du rouleau en réalité, et c'est pour ça qu'ils sont en train de se jeter les uns sur les autres, et qu'on voit cette agressivité avec Trump, hein, oui. Et qu'on voit ces rivalités entre les États-Unis, la Chine en particulier. Mais tout ça, ça va finir par une conflagration généralisée. Pourquoi ils sont tous en train de se réarmer là, comme jamais? Donc, vous voyez, il faut avoir cette vision d'ensemble, parce que tout le reste, c'est du baratin.
Mais justement, pour parler de LFI, hein, du coup, m'étant d'une petite perche, ces derniers jours...
Une grosse perche.
Ces derniers jours, à l'Assemblée nationale, il y a une commission d'enquête parlementaire sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations propageant l'idéologie islamiste. Enfin, c'est un nom un peu pompeux, juste pour dire que Laurent Wauquiez a décidé de faire un procès à LFI en les accusant d'être en lien avec l'islam radical. Et justement, en fait, LFI est attaqué de ce côté-là. Je vous propose d'écouter Prisca Thévenot lors de l'audition de Jean-Luc Mélenchon, et on en parle juste après.
Je pourrais vous parler de la montée de l'antisémitisme dans notre pays. Vous rappelez que les actes antisémites représentent 60% des agressions à caractère religieux, alors que la population juive constitue moins de 1% de la population. Je pourrais alors vous demander pourquoi vous semblez voir de l'islamophobie partout et de l'antisémitisme nulle part. Je pourrais ajouter que cette minimisation de l'antisémitisme participe à créer un terrain propice à l'entrisme islamiste. Mais je sais que face à ce phénomène pourtant préoccupant, vous allez faire le tribun, comme vous savez souvent le faire, théâtraliser pour esquiver ou transformer cette question en long cours d'histoire pour m'expliquer que je me trompe.
Vous venez d'entendre Prisca Thévenot, ancienne porte-parole du gouvernement, auditionnée Jean-Luc Mélenchon. Comment vous réagissez à ce type de procès, entre guillemets, qu'on fait à LFI actuellement?
Je trouve ça écœurant, voilà, écœurant. Mais depuis le début, hein, je trouve ça écœurant. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est vrai qu'ils ont pris à bras-le-corps ce mouvement de solidarité nécessaire avec le peuple palestinien, parce qu'ils ont dénoncé le génocide à Gaza. Voilà. Ouais. Mais ils ont raison. Et nous l'avons aussi, Lutte ouvrière, dénoncé, bien sûr, parce qu'il faut le dénoncer. Et il faut continuer de dénoncer la politique sioniste. Parce qu'en réalité, depuis le début de la création des premières colonies juives en Palestine. Cette politique sioniste, elle a consisté à chasser les Palestiniens de leurs terres, à les chasser, à les faire disparaître. Il fallait qu'ils soient plus là, depuis le début. Donc évidemment que cette politique sioniste, elle est à combattre. Elle est à combattre et moi, c'est dans l'intérêt des Palestiniens, évidemment. Mais c'est dans l'intérêt aussi des Israéliens. Parce que la réalité, c'est qu'on ne peut pas construire un pays et vivre en paix et en sécurité. D'abord sur une montagne de cadavres, ça c'est sûr. Et puis en faisant la guerre à tous les peuples voisins. C'est pas possible. Donc voilà, Marx disait, vous savez, un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être un peuple libre. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, oui, il y a une lutte contre l'antisémitisme à mener, ça, oui, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie, contre tous les racismes, ça, c'est sûr. Mais en l'occurrence, par rapport à ce qui se passe en Israël et cet écrasement de la population palestinienne, il ne faut pas l'accepter. C'est inacceptable, c'est une barbarie. On atteint les sommets. Vous avez parlé des journalistes morts à Gaza. J'ai regardé la semaine dernière ce documentaire incroyable, je conseille à tout le monde, dans Gaza, hein, qui suit l'équipe de l'AFP dans Gaza, justement, qui témoigne effectivement de comment l'armée israélienne a visé les journalistes pour que précisément ils ne puissent pas témoigner. du fait qu'Israël ne menait pas une guerre contre le Hamas. Israël menait une guerre contre tous les Palestiniens, absolument tous les Palestiniens.
Là, justement, on parlait d'LFI, mais vous venez de donner aussi votre point de vue sur tout ça. La parole de gauche dans les médias, ces derniers temps, particulièrement depuis le 7 octobre, mais un peu avant, est souvent décriée. Qu'est-ce que ça dit de notre climat politique et médiatique ?
Bah, ça dit qu'il y a une pression sur la droite, une pression sur la droite, une pression sur l'extrême droite, en effet, et que finalement, ils veulent que... C'est une forme d'intimidation. Hein, une forme d'intimidation qui a en partie fonctionné parce que quand on compare les manifestations, par exemple, de solidarité avec la Palestine en Italie et celles en France, on voit qu'en France, elles étaient moins nombreuses. Mais parce que dès le départ, voilà, il y a eu vraiment cette charge et cette intimidation qui pesait. Donc effectivement, alors bon, peut-être que oui, on va... peut-être que ça va durer. Et ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'être à contre-courant. Il ne faut pas avoir peur d'affirmer ses convictions. Et que même, il faut en faire une fierté, en fait. Il faut en faire une fierté. Voilà, dans une société qui voue un culte à l'argent, il faut être fier de dire que non, nous, on voit la vie autrement, qu'on voit la société autrement. Dans une société où il y a de plus en plus de racisme, il faut dire que non, nous, on voit l'humanité comme un tout, comme un seul et même ensemble. Voilà, donc, moi, c'est, en tout cas, c'est avec forte de toutes ces convictions-là que, oui, je continuerai de mener le combat, y compris donc au travers des échéances électorales.
Effectivement. Justement, je vais vous parler pour terminer de quelque chose dont vous avez dit tout à l'heure, qu'on nous bassine avec ça et pourtant... un tout petit peu. J'aimerais juste avoir votre avis quand même. Donc, vous avez vu passer, on vient d'en parler, la femme du président, Brigitte Macron, a traité de Salcon, des militantes féministes qui ont interrompu un spectacle d'Harry Habitant, le comédien, qui avait été accusé de viol en 2021. Il y a eu un non-lieu cette année qui a été prononcé. Elles ont été expulsées, ces féministes, violemment de la salle par certains spectateurs et par la sécurité. Elles ont reçu des coups, notamment aussi notre journaliste qui était là pour filmer. Je vous propose juste de regarder rapidement Brigitte Macron, me dire ce que vous en pensez juste après, même si c'est quelque chose dont vous n'avez pas très envie de parler. J'aimerais juste avoir votre avis. Merci.
Oh là là, ça va, t'es comment ?
J'ai peur.
T'as peur de quoi ?
De tout.
Mais viens, si il y a des sales connes, on va les foutre dehors.
Tu crois ?
C'est ce que j'ai fait hier, moi.
Ouais, Hubert, il était là.
Ben oui.
C'est pas possible. Surtout des bandits masqués.
Ouais. Ah, donc, père, t'en vas, non.
C'est combien de temps tu fais, combien de temps ?
Je fais 1h20, 1h25, tout dépend. S'il y a un vrai happening, on verra, s'il y a une embrouille.
Donc je vous ai quand même passé cet extrait, hein, vous l'avez beaucoup vu tourner j'imagine, et depuis ça vous agace j'imagine aussi. Mais quand même, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de Brigitte Macron, mais dans le sens où on est dans une période où justement les luttes féministes et la volonté de lutter contre les violences sexuelles était même une des priorités du gouvernement, et finalement la femme du président de la République peut tenir ce genre de propos.
Vous avez raison, c'est débectant, voilà, et ça montre un mépris, ça montre une connivence, enfin voilà, ok. Mais voyez aussi tous ces petits à côté là. Et c'est ça la politique. Maintenant, c'est plus que ça. Et on discute plus du fond, de où on va, où va la société là. Alors ils sont en train de dire, vous avez quand même entendu, hein, le général Mandon. Ouais. Qu'il faut être prêt à perdre ses enfants, ouais. On peut en discuter un petit peu. Ils sont en train de nous expliquer, faites des gosses, on se chargera de les envoyer à la guerre. Peut-être que ça peut être un débat politique, non ?
Effectivement.
Hein ? Donc voilà, moi je pense quand même que faire attention à tous ces, comment dire, ces espèces de bruits parasites là, on fait mumuse avec leurs pitreries. Ok, ils sont méprisants. Ok, ils en ont rien à faire des violences faites aux femmes, des pauvres, des gens qui dorment à la rue. Macron, il avait dit plus de SDF, ouais. Etc. Hein ? Ils en ont rien à faire. Et alors ça nous étonne ? On apprend quelque chose là ? On n'apprend rien du tout. Par contre, ils sont en train de nous... c'est une catastrophe. On va vers la catastrophe. Alors, climatique, c'est évident. Social, c'est évident. Voilà. Maintenant, on a la guerre. Donc ça aussi. Et justement, moi, je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face et puis de mettre la tête dans le sable, toutes ces discussions. Il faut les avoir. Et en étant conscient, J'en reviens que tout ça, c'est lié au capitalisme. Et que le capitalisme, bah justement, on n'est pas condamné éternellement à le subir.
Effectivement, donc pour reprendre ce que vous dites, les commentaires autour de Brigitte Macron, c'est de la distraction qui nous éloigne de la réalité de ce qu'on vit dans le pays. Et effectivement, quand on parlait d'efforts de guerre que nous a dit le général Mandon, Emmanuel Macron parlait de réarmement démographique à l'époque. Donc déjà, on est dans une ambiance guerrière. Donc vous faites bien de le rappeler. Merci beaucoup, en tout cas, Nathalie Arthaud. Vous avez parlé sans filtre. Vous m'avez parfois même un peu secoué, mais c'était fort intéressant. Donc merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Et merci à vous de nous avoir suivis cette édition du TD, à suivre le récap présenté par ma collègue et consoeur Marion Lopez. Et sachez que nous lançons une grande campagne de dons en 2025. Et comme chaque année, on peut ne pas compter sur ni le Père Noël, ni sur aucun milliardaire, vous le savez très bien, mais on peut compter sur vous. Et c'est le plus important, avec un objectif clair, franchir et dépasser le palier des 150 000 euros. Un palier qui nous permettrait non seulement de clôturer l'année sereinement, mais aussi d'aborder 2026 avec la force et la confiance nécessaires pour continuer le combat, celui d'aller sur la TNT francilienne ou national. Donc très belle soirée à vous sur le média et on vous laisse découvrir cet entretien. Bonne soirée.